Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Marc Bisset qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, on en parlait juste avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. L'abominable docteur Petiot, le Landru de la Seconde Guerre mondiale. Certains journaux avaient même titré « L'assassin habité au 21 à cause du 21 rue Le Sueur, siège de cette hôtel particulier qui appartenait au docteur Petiot et dans lequel on avait trouvé des restes humains en quantité, une chaudière qui avait servi à se débarrasser d'une grande partie d'entre eux, et puis ce monceau de valises qui a frappé l'imagination de tout le monde lorsque les photos ont été publiées lors du procès de Petiot. On a même parlé de falaises de valises qui étaient là dans le prétoire à côté du box des accusé. Alors je disais tout à l'heure, on croit tout savoir sur l'affaire Petiot, et en fait j'ai invité, moi, non pas un journaliste, non pas un spécialiste des affaires criminelles, mais tout simplement, j'allais dire, un historien. Claude Quettel, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, parce que vous venez de publier chez Perrin l'effrayant docteur Petiot, et vous reprenez l'enquête et vous dites bien dès les premières lignes de votre livre: ce n'est pas un dossier que vous rouvrez, c'est une enquête que vous avez menée, et ce n'est pas une enquête de police, c'est une enquête d'historien. Alors c'est quoi une enquête d'historien ?
Alors, police, histoire, c'est un peu la même démarche. Hein. C'est enquête au sens, quand même, pour ce qui concerne les historiens, c'est que tout cela est du domaine du passé. Mmh. On est donc un peu plus calme, peut-être, sur le sujet. Et par contre, ce que j'ai voulu faire, et qui visiblement n'avait pas été fait, sinon je ne me serais pas embêté, c'était de reprendre toutes les archives. Oui. C'est-à-dire, pas seulement les archives du procès, qui ont été fouillées et refouillées, mais aussi les archives de la police, les archives de la gendarmerie, les archives départementales de Lyon, et surtout, puisque moi l'intérêt pour moi c'était la question sous l'angle de la psychiatrie, fou ou coupable,
bien sûr.
C'est aussi le Petiot d'avant Petiot, le Petiot enfant, le Petiot maire de Villeneuve-sur-Yonne, et pris dans tellement d'histoires qu'il est révoqué maire. C'était quand même rarissime. Ouais. Donc j'ai voulu reprendre l'ensemble de l'enquête, et police, histoire, je dirais, c'est la même chose, sauf que peut-être que l'historien a un peu plus de temps et, encore une fois, un peu plus de recul.
Et une méthode, évidemment, pour valider ces informations historiques classées dans le tiroir de la rumeur, ce qui n'est pas vérifié par d'autres témoignages. Alors ce qui est très intéressant, c'est, on va beaucoup parler tout à l'heure de l'enfance, de la jeunesse, de la guerre, la Première Guerre mondiale, des études de médecine de Petiot, et puis de cette longue partie de sa vie, en fait, où il a été un notable de Villeneuve-sur-Yonne, maire, réélu après plusieurs reprises, conseiller général, et tout ça émaillé d'internement psychiatrique quand même, avec, on voit très bien en toile de fond cet aspect-là de sa personnalité. Alors, il y a des clés là-dedans, évidemment, pour mieux comprendre le personnage. On parle de zones d'ombre et de questions qui se posent. Avant de rentrer vraiment dans le dossier, on peut les énumérer. La première question qui domine toute l'histoire, c'est celle de la folie, hein, bien sûr.
Alors les zones d'ombre sont innombrables.
Oui.
C'est-à-dire que plus j'ai creusé, et plus il y avait à creuser. Mais ça fait partie, j'allais dire, des charmes du métier d'historien.
Mmh.
Alors effectivement, la première zone d'ombre, et elle est effectivement d'envergure, c'est la question de la folie. Et de quelle folie ? Qu'est-ce que c'est que la folie en général ?
Mmh.
Et qu'est-ce que c'est que la folie selon l'article 64 du Code pénal, où il faut être dément, faut quasiment mordre le tapis pour être considéré comme fou.
Que son avocat, Maître Floriot, vous le remarquez dans votre livre, n'a jamais invoqué au cours du procès. Il n'a pas dit « mon client est fou, excusez-le », il a dit « mon client est innocent ».
Effectivement, j'ai essayé de pas trop prendre parti, mais quand même, autant avoir l'air de s'intéresser au sujet.
Oui.
Et moi, je trouve que Floriot n'a pas fait son boulot. personnellement. Ouais. Il envoie, à mon avis, il envoie Petiot directement à la guillotine, en se faisant une bonne pub sur le grâce à cela.
Ouais, on dit souvent que Floriot est un jeune avocat qui démarre, ça fait 20 ans que...
Il est déjà un peu célèbre.
Oui, hein, il commence, il a fait le procès Pétain ou pas, lui? Non. Non, il a pas fait.
Voilà une belle cause.
Je ne crois pas. Disons que le procès Petiot a certainement participé beaucoup à la notoriété de Floriot.
C'est pour lui un grand tournant dans sa carrière. Et effectivement, je crois qu'il pense plus à sa publicité qu'à la tête de son client.
Ouais. Alors, il y a cette question de la folie sur laquelle on va revenir. Les autres questions, mais c'est combien de victimes d'abord? On ne sait pas vraiment. On a trouvé les restes de 27 personnes dans l'hôtel particulier de la rue Le Sueur. Il a été condamné pour 24. Au début de son procès, il en revendique plus de 60.
Que vos auditeurs pardonnent ce rire, mais vous savez, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'humour médecin, c'est vrai. À force d'être dans le rapport médico-légal, on finit par pratiquer un humour un peu particulier. Oui. Mais bon, je vous ai montré cette horrible photo. On a réussi à faire deux faux cadavres avec 27 vrais cadavres et dont il ne veut pas. Il dit, ce ne sont pas les miens. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup plus, de gestapistes, dénonciateurs, abominables personnages, mais ce sont pas les mêmes. Alors donc, on commence à ne plus rien y comprendre, et en fait, que ce soit le juge, les jurés, vous et moi aujourd'hui, on ne comprend pas tout. Hein. Ouais. On ne comprend pas tout. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a été guillotiné pour 27 meurtres, c'est son chef d'accusation, mais... Ce sont pas ses cadavres. Cela, il n'en veut pas.
Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est comment il a tué.
En fait, on sait rien, en fait.
On sait pas du tout. On sait pas s'il a eu des complices.
Non. Moi, je pense que oui, mais moi, je trouve que son épouse et son frère sont, à mon avis, très gravement impliqués.
Épouse, notamment, qui un jour a dit qu'elle s'était pas rendue compte des problèmes psychiques ou psychologiques de son mari.
Elle ne se rend compte de rien.
Elle ne se rend compte de rien.
Cette jolie femme, bourgeoise, certainement très bonne mère de famille, bonne femme d'intérieur, mais elle ne se doute de rien, elle ne sait rien de rien de rien, quand même. Enfin bon.
Oui, elle va très loin. On va faire une pause et on va entrer dans le dossier. C'est-à-dire, je vais faire un petit résumé de quelques minutes pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Puis ensuite, on revisitera tout ce dossier ensemble en tentant de répondre quand même à un bon nombre des questions que vous posez dans votre livre. Je rappelle le titre de ce livre que je recommande vivement à ceux qui s'intéressent à cette affaire. L'effrayant docteur Petiot, fou ou coupable, c'est le sous-titre du livre qui vient de paraître aux éditions Perrin.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes à Paris, sous l'occupation, le samedi 11 mars 1944. Ce jour-là, en fin d'après-midi, un habitant de la rue Le Sueur, près des Champs-Élysées, prévient les pompiers. Il y a un feu de cheminée, dit-il, dans un immeuble à l'abandon, au numéro 21, donc de cette rue Cossu, située dans le 16e arrondissement. Une odeur pestilentielle flotte dans l'air, qui devient irrespirable. Le propriétaire, un certain docteur Petiot, a été prévenu de l'incendie, mais il tarde à venir. Et les pompiers vont entrer d'abord dans un petit bâtiment comprenant un bureau, un couloir et un réduit sans fenêtre qui ressemble étrangement à une cellule. À côté, un cellier sert de débarras et c'est au sous-sol de la maison qu'ils vont découvrir une véritable scène d'horreur, des ossements humains, des corps à demi décomposés, des membres épars et dans la chaudière, des morceaux de cadavres à l'origine de l'odeur nauséabonde signalée par les voisins. Les premiers enquêteurs de la police qui arrivent sur les lieux découvrent derrière une double porte équipée d'un judas, une étrange chambre de forme triangulaire. Plus loin, un puits. Ce puits est rempli de cadavres recouverts de chaux vives. Et puis il y a aussi dans ce sous-sol un vestiaire lugubre qui abrite un empilement de malles et de valises par dizaines. Le commissaire Massu de la brigade criminelle prend la direction de l'enquête. Il se rend aussitôt au cabinet du docteur Petiot, qui est situé rue Comartin dans le 9e arrondissement. C'est là que le docteur Petiot exerce depuis 1933. La femme du médecin tombe des nues. Mon mari, non, il est absent, il a été appelé hier. Sans doute un accouchement difficile, il va revenir. Le policier comprend que le docteur Petiot a pris la fuite. L'enquête révélera la personnalité étrange d'un homme né en 1897, ayant connu par le passé des épisodes délirants qui l'ont conduit à plusieurs reprises en asile psychiatrique. Nous y reviendrons. Il a été soupçonné également d'un certain nombre de morts suspectes dans son entourage, mais il a toujours échappé aux poursuites parce qu'il était aussi un notable. Il avait été notamment pendant plusieurs années maire d'une petite commune de Lyon. Et lorsqu'il s'établit rue Comartin à Paris en 1933, sa réputation est celle d'un bon docteur, un peu original certes, mais pratiquant une médecine de pointe. En quelques mots, c'est le succès. Sa clientèle est nombreuse, les affaires sont florissantes, ce qui lui permet d'ailleurs d'acheter bientôt ce petit immeuble de la rue Le Sueur où périront ses victimes, en majorité des juifs désirant quitter la France, à qui il a fait croire qu'il était à la tête d'un réseau de résistance et qu'il pouvait les faire passer en Argentine. Malgré la fuite de Petiot, qui reste introuvable, l'enquête du commissaire Massu accumule les preuves incontestables de ces assassinats. On a trouvé rue Le Sueur 26 sacs à main, 21 manteaux de laine, 33 cravates, 43 paires de chaussures, 79 robes. Au total, 1760 pièces d'habillement. Petiot sera finalement arrêté dans des circonstances rocambolesques le 31 octobre 1944 sous le pseudonyme de Valérie. Il s'était réfugié dans un réseau de résistants bien réel, celui-là où il occupait la fonction de médecin capitaine. Il avait expliqué que son propre réseau, baptisé Flytox, avait été démantelé par les Allemands et qu'il devait donc se cacher. Le procès de celui que la presse baptise très vite Docteur Satan s'ouvre le 18 mars 1946. Il fait la une de tous les journaux. Il est officiellement accusé de 27 meurtres, mais comme on le disait tout à l'heure, il en revendique fièrement 63 dès le deuxième jour d'audience. Qui étaient ses victimes, demande le président de la cour d'assises. Des traîtres à la France, des collabos, des nazis, déclare Petiot. Car Petiot, évidemment, ne veut pas être pris pour un vulgaire assassin. Il est, et il le redit, le chef d'un réseau de résistance, ce fameux réseau Flytox. Personne n'en a entendu parler. Ben, c'est normal, c'était la guerre. Toutes les personnes qu'il a citées comme étant ses contacts dans la résistance sont mortes ou inconnues. C'est normal, c'était ça la résistance. Et Petiot construit tout son système de défense autour de ce mythe. Mais il a beau se défendre d'avoir tué pour la France, il ne reste pas moins qu'un grand nombre de ses victimes juives étaient peu suspectes d'être des collaborateurs. Les juges ne s'y laisseront évidemment pas prendre. Petiot est, selon les experts, un psychopathe. Il a seulement profité de toutes les opportunités que cette période troublée lui fournissait. Le 4 avril 1946, à minuit 10, malgré une défense brillamment menée par son avocat, Maître Floriot, Petiot est reconnu coupable de 24 des 27 meurtres qui lui sont reprochés. Il est condamné à la peine capitale et il est exécuté dans la cour de sa prison le 25 mai à 5h05. Avant de le conduire à l'échafaud, l'avocat général Dupin, qui, selon l'usage, a pénétré dans sa cellule en compagnie du juge d'instruction et de Maître Floriot, son avocat, Monsieur Dupin lui pose la question rituelle. Petiot, avez-vous une dernière déclaration à faire? Réponse du condamné. Je suis un voyageur qui emporte ses bagages. L'énigmatique docteur Petiot a effectivement emporté bien des secrets dans sa tombe. Alors, bon, ça c'est le côté polar, hein, Claude Quettel, de l'histoire que tout le monde connaît. Vous revisitez évidemment toute cette partie importante du dossier, on y reviendra tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de Petiot avant Petiot, parce qu'il y a des clés certainement pour comprendre ce personnage. Il est d'une famille assez modeste, donc il naît dans les dernières années du 19e siècle. C'est quoi son enfance?
Toute petite, toute toute petite bourgeoisie. Il a tout de même un de ses oncles qui est prof, mais enfin donc...
Vous prenez une expression anglaise, vous dites « lower middle class hein, ».
Oui. Oh ben, ouais. Dans mon esprit, il n'y a aucun jugement de valeur. Oui, alors, effectivement, dès le départ, dès son enfance, des épisodes psychiatriques, un épisode plus grave lorsqu'il a 18 ans, il a cambriolé des boîtes à lettres.
C'est un enfant ingérable, hein.
Complètement ingérable. Alors, certains livres en ont rajouté, on le fait plonger un chat dans de l'eau bouillante. bon, moi, ça, j'ai pas
retrouvé
ça. C'est
tout juste s'il arrache pas les ailes aux mouches, parce que ça serait bien dans le tableau.
Mais je veux dire, je trouve que, ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu reprendre l'enquête. C'est parce que je trouve que c'est assez horrible comme ça.
Avec
des faits établis, sans aller inventer des épisodes de chat qu'on est bouillante. Ouais. Mais c'est possible aussi. Il n'est déjà plus à ça près.
Ouais. Et pardonnez-moi, quand il cambriole les boîtes à lettres, c'est très intéressant parce que c'est pas pour voler de l'argent.
Non, il ne vole pas l'argent.
Il veut lire ce que les gens se disent.
Oui. Il ne vole pas l'argent parce que, à une époque que moi j'ai encore connue étant gosse, dans les années 50, on envoyait couramment de l'argent à des membres de famille dans des enveloppes. Ça se faisait, le mandat, c'était un peu compliqué. Donc il y avait pas mal d'argent liquide dans le courrier à l'époque, alors qu'aujourd'hui, plus du tout. Mais le premier épisode psychiatrique grave, encore que dès l'épisode des boîtes à lettres, il y a déjà un expert psychiatre qui considère qu'il est
une
irresponsable.
Responsabilité atténuée, en tout cas.
Carrément irresponsable. Mais alors, le grand épisode psychiatrique, c'est la Grande Guerre, parce que il est blessé au pied en 1917, je crois, et une commission de médecins psychiatres, alors un médecin psychiatre de la Grande Guerre, vous savez, pour être reconnu.
Oui, irresponsable, faut vraiment l'être,
Des médecins militaires pendant la Grande Guerre, faut quand même être malade grave.
Alors ça, c'est très intéressant de dire ça maintenant parce que on va soupçonner également Petiot d'être un extraordinaire simulateur. Alors, et il s'est servi de cela certainement, comme vous allez nous le dire dans un petit instant. On va faire une première pause. Évidemment, là, je m'adresse à ceux qui écoutent l'émission. Si vous avez des questions, des réflexions, voire des témoignages, on a déjà reçu sur Twitter. On va en parler tout à l'heure. Mais oui, des témoignages, en tout cas sur ce fameux jour de 44 où il y avait l'incendie dans l'hôtel de la rue Le Sueur. Eh bien, vous 3210 pour les questions par téléphone, rtl.fr si vous préférez l'internet. À tout de suite.
Et l'heure du crime sur RTL.
Et on revient sur l'effrayant docteur Petiot pour reprendre le livre de mon invité Claude Quettel qui vient de paraître aux éditions Perrin. On a compris que c'est une méthode d'historien appliquée à des événements qui pour un historien sont pas très loin dans le passé. Hein, c'est quand même de l'histoire toute récente pour vous. Il y avait un bon nombre de zones d'ombre que vous éclairez, notamment l'aspect psychologique et psychique et les affections psychique de Petiot qui apparaissent parce que vous avez signalé tous les internements. Vous parliez il y a quelques minutes de ces médecins militaires qui vont quand même le déclarer irresponsable. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs, il est irresponsable ou parce que quand il a été blessé,
effectivement, il a démence. Je crois que tu parles de démence. Le mot est
alors
utilisé.
La grande énigme, c'est comment un type qui est interné toutes les 36 du mois et qui est considéré comme fou, va faire des études de médecine. C'est étrange.
Je me pose encore la question. Il avait commencé de vagues études de médecine avant d'être incorporé, et puis il va surtout bénéficier d'une mesure d'accélération d'études pour les anciens combattants qui ont tous les droits, les malheureux.
Après la Grande Guerre, oui, bien sûr.
Pour cela, mais je crois qu'il doit bâcler ses études de médecine en 2 ans ou 3 ans.
Oui. Mais enfin, il a son diplôme. Il est docteur en médecine.
Il s'établit à Villeneuve-sur-Yonne, et il va très vite devenir un notable au point d'en devenir le maire, mais tout en accumulant des délits. Très vite, il apparaît comme un kleptomane, ce qui est la forme polie du mot voleur. Enfin, moi, je crois qu'il est les deux.
C'est bizarre, on retrouve des bidons d'huile dans son...
Il vole de l'huile.
L'huile, c'est important à l'époque, hein, pour mettre dans les moteurs consomment beaucoup d'huile.
Mais enfin, il vole quand même à peu près. Oui, c'est vrai. Les deux chevaux également.
Mais il pique des trucs à droite à gauche, mais il les dissimule pas vraiment.
Il les dissimule pas vraiment. C'est ça aussi qui va pas vraiment dans le sens de quelqu'un qui commet des délits avec toutes ses facultés mentales.
Vous dites qu'il fauche des choses chez ses clients, par exemple, lors des visites, et on les retrouve dans le cabinet la salle d'attente.
Ça plaît de la kleptomanie, effectivement. Ouais. Et puis, bon, il y a déjà quelques disparitions autour de lui, hein, sa petite bonne.
Louise, non?
Louisette, je ne sais plus.
Louisette. Alors ça, c'est une jeune bonne de 20 ans qui disparaît. Il y a un incendie aussi, alors là, criminel. Hein.
Un incendie avec un meurtre à l'intérieur de l'incendie, un vol. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les rapports de police sont déjà très très clairs et le mettent en cause. C'est la justice qui ne suit pas.
Ouais.
Et ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, elle ne suit pas pour un certain nombre de raisons. C'est un élu, c'est un notable, il est franc-maçon, il est conseiller général.
Oui. Et pardonnez-moi, c'est très important parce que, dans l'histoire de la femme qu'on a trouvée assassinée dans l'incendie dont vous parlez.
Dans la laiterie, oui.
Mais on a comparé les empreintes digitales. On a trouvé des empreintes digitales, je crois, sur place. On les a jamais comparées, celles de Pedro. On n'a pas pris les empreintes de Monsieur le maire.
Quoi. On a relevé les empreintes de tout le monde. Alors déjà, à l'époque, on a relevé 150 empreintes. Le malheureux type qui passait à un kilomètre, on a relevé ses empreintes. Et pas les siennes.
Pas les siennes.
Ah, ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Alors, cela dit, il va quand même... Alors, il va y avoir des batailles homériques. Parce que à chaque fois que il y a des scandales, quand même, on refait des élections... Quatre élections, tous les deux ans.
Autant d'élections qu'aujourd'hui. Il y en a beaucoup.
Mais là, il y en a encore plus. Et il est plébiscité, finalement, jusqu'au jour où il va être, alors, destitué, cette fois. Là, il faut raconter pourquoi.
Alors, c'est pareil. C'est quand même, ça pose d'ailleurs le problème de l'avenir. Mais restons sur le présent de ce qu'on évoque maintenant. Il n'a pas volé 1 million, il n'a pas volé 1 000 francs, il a détourné de l'électricité. Détourner l'électricité,
alors le juge va lui dire, mais vous éclairez comment? À la bougie.
Oui, ça prouve au moins une chose, c'est qu'il est bricoleur. Oui. Mais enfin, c'est quand même assez mineur. Ouais. C'est quand même assez mineur, mais je crois qu'il commence à y avoir quand même tout un contentieux qui s'alourdit. Ouais. Et il est, en plus, les auditions au tribunal montrent quand même que il est tout ce qu'on veut sauf innocent. Ouais. Et donc là, condamné à un peu de sursis, il n'est pas mis en prison. Il n'est pas destitué comme médecin, mais là, je plaide pour le Conseil de l'Ordre qui n'est même pas encore né, qui est en train de naître.
Oui.
Aujourd'hui, un médecin qui ferait ça n'aurait pas le droit d'exercer,
bien sûr.
Il faut le dire en passant. Ouais. Et puis, il est donc destitué, ce qui est rarissime. Est-ce qu'il va lui faire... lui l'obliger à quitter Villeneuve-sur-Yonne, où il avait un tas de partisans. C'était le bon médecin, le bon docteur Petiot, le médecin des pauvres, l'homme qui ne se faisait pas payer. Alors évidemment, s'il volait partout, il est peut-être pas obligé de se faire payer comme médecin.
Ah, toujours est-il qu'on n'a pas parlé de sa femme. Il s'est marié, on peut dire un mot sur sa femme, parce qu'ils vont aller s'installer à Paris, il va ouvrir son cabinet de la rue Caumartin.
Il s'est marié avec la fille d'un assez riche propriétaire, et qui, très curieusement, alors je n'ai pas pu creuser plus parce que je n'ai pas trouvé plus. Vous savez, les historiens, ce ne sont pas des romanciers. C'est dommage d'ailleurs, c'est pas l'envie qui manque par moment. Mais le père, le beau-père donc de Petiot, est propriétaire d'un très grand restaurant tout près de l'Assemblée nationale.
Ah oui, où vont les politiques.
Donc, où vont déjeuner les députés. Certainement permis d'avoir aussi quelques protections, quelques liens. Enfin, toujours est-il qu'il est obligé de s'enfuir, mais de s'en aller s'établir à Paris.
Alors, il va à Paris, il va ouvrir son cabinet, il va faire un truc qui est quand même assez rare à l'époque, il va faire de la pub.
Incroyable.
Il va distribuer les prospectus.
Il guérit tout,
les spécialistes de l'électrothérapie, etc. Bon. Et ça va marcher. Et là, on peut dire qu'il va avoir en quelques mois un cabinet vraiment extrêmement florissant. Et après une pause, on va raconter quand même un autre épisode. Vous parliez de kleptomanie tout à l'heure, et puis il va être impliqué dans un trafic de stupéfiants.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous retrouvons Claude Quettel, mon invité, historien qui a appliqué les méthodes de l'historien à réenquêter toute l'affaire du dossier Petiot. Alors, on peut pas tout dire. D'abord, il faut en laisser pour vos lecteurs, hein, Claude Quettel. Je rappelle que vous avez publié les résultats de notre enquête chez Perrin dans ce livre L'effrayant docteur Petiot, avec la question fou ou coupable, évidemment, que tout le monde se pose. On a parlé de son enfance et de ses épisodes quand même psychiatriques et de ce côté notable qui complète le tableau du personnage, le portrait du personnage. Arrivé à Paris, alors on va pas tout raconter, il y a l'épisode de la librairie Gibert, puisque vous parliez de kleptomanie, il se fait prendre la main dans le sac, il a volé chez Gibert un livre. Ça va avoir des conséquences aussi qui auraient pu être définitives pour lui. Il s'en sort encore, par miracle.
C'est un épisode important parce que, bon, il vole un livre chez Gibert. Bon, quand on pense aux 27 inculpations d'assassinat, ça fait quand même qu'une nuance. Et il est reconnu irresponsable mental et il est interné psychiatrique pendant plusieurs mois.
Voilà. Alors qu'il est déjà médecin.
Médecin marron.
Oui. Ah ben alors ça c'est le trafic de stupéfiants.
Oui.
Je veux dire très très vite. Alors il se présente comme un spécialiste de la désintoxication.
Oui.
Des morphinomanes. C'est
oui.
Malin ça.
Oui. Ouais. C'est très fort. C'est très fort parce que c'est ça qu'il met à l'abri des inculpations directes. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit il faut que je désintoxique mon patient, donc je lui prescris de la morphine.
Voilà. Faut le sevrer.
De moins en moins. Il en a de moins en moins. Alors et donc son cabinet est plein grâce à ça.
Bien sûr.
Ces guérisons de cancer, hein.
Ouais,
voilà. C'est grâce à ça.
Ouais.
Et donc, ce vol chez Gibert, 1936, qui lui vaut un internement psychiatrique, est quand même assez extraordinaire, parce que, zut alors, voilà, pour un livre, si je peux me permettre.
Ou n'importe qui, là.
Vous êtes interné psychiatrique pendant plusieurs mois. Il va tout de suite mieux, hein, après avoir été interné.
Oui.
La question vraiment de la folie ne va pas se poser pendant le procès avec 27 accusations de meurtre.
Alors, ça, c'est un point très, très important parce que, on en a parlé tout à l'heure, simulateur, pas simulateur, fou, authentique, etc. C'est peut-être le moment de dire une chose qui m'a beaucoup frappé dans votre livre que vous évoquez sur la folie. Vous citez un auteur.
Oui, parce que avant de m'intéresser à Petiot, je me suis toujours beaucoup intéressé à la Bastille et aux prisonniers de la Bastille.
J'ai écrit un livre sur l'histoire de la folie.
Plusieurs livres sur la Bastille et c'est devenu ma prison préférée, si je peux dire. Et donc, le lieutenant général de police de Paris, d'Argenson, fin du règne de Louis XIV, d'une intelligence et d'une ironie extraordinaire, à propos d'un de ces prisonniers de la Bastille qu'on dit fou, dit « Il a tant fait le fou qu'il l'est devenu en effet ».
Voilà.
Et c'est, à mon avis, toute la problématique de Petiot se trouve posée là. Est-ce que c'est un simulateur qui a tellement bien simulé qu'il a fini par tomber dans le piège? C'est un piège qui nous guette tous. Hein. Faut pas jouer au fou. C'est un jeu extrêmement dangereux.
Alors, l'autre question, évidemment, avec Dessy, les historiens ont horreur de ça. Et s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, quoi, qu'est-ce qui serait passé? Parce que vous dites, bon, on a dit de lui, c'est le Landru de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Mais c'est vrai que la guerre, c'est quelque chose qu'il fallait permettre peut-être de s'épanouir. Parce que les gens d'Ocha a fouetté que d'aller chercher des gens qui volent des livres chez Gibert.
Oui, vous avez prononcé le nom de Landru. Les deux procès, les deux noms, à mon avis, vont bien ensemble. Je pense qu'on aurait eu difficilement un Landru s'il n'y a pas eu la Grande Guerre.
C'est
cette espèce de déficit d'hommes qui fait que vos annonces matrimoniales ont beaucoup de réponses. Plus qu'aujourd'hui, peut-être. Enfin, bon. Et puis, la Seconde Guerre mondiale, où les gens, Potcher qui a couvert, en partie.
Frédéric Potcher, pour ceux
qui veulent
le
bien
grand Frédéric
se
Potcher,
souvenir du grand Frédéric Potcher, chroniqueur judiciaire, qui explique que c'est quand même la période de l'occupation, c'est la période où les gens disparaissent, c'est la période où la vie ne vaut pas cher. Donc, est-ce qu'un Petiot aurait été possible en dehors de l'occupation? Probablement pas.
Alors, on va passer là maintenant à la période la plus connue, hein, de l'affaire Petiot, de l'affaire Giorgio, je dis bien. Oui. C'est le procès, mais j'ai quand même une ou deux questions. D'abord, est-ce qu'on sait qui a été sa première victime? Parce que il a mis donc il fait du trafic de drogue. Il fricote plus ou moins aussi avec des voyous, hein, apparemment.
Dans son réseau d'évasion, il a des truands. Il n'y a pas que des juifs.
Voilà, il tue également des voyous. Bon, comment d'ailleurs, on le sait pas. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bon. Mais la première victime, on le sait plus ou enfin on sait plus ou moins comment il l'a appâté, Monsieur Gusmeyer, je crois.
Je n'ai plus le nom en tête. C'est un nom compliqué.
Oui, c'est Gusmeyer, je crois.
C'est un fourreur juif qui veut quitter la France, lui, pour carrément sauver sa vie. Oui. Et oui, mais les 27, en fait, ce ne sont pas les bouts de cadavres qu'on a retrouvés, qu'on n'a pas réussi à reconstituer. Ce sont 27 disparitions. Et comme par hasard, d'ailleurs, lorsque Petiot est arrêté, les disparitions cessent. Cette première victime, on ne sait pas plus que pour les autres comment il l'a tué, mais on sait que c'est avec lui qu'il est entré en contact, oui. Et que c'est grâce à, c'est Gushinov.
C'est Joachim Gushinov.
Gushinov, en fait, j'avais peur de ma mémoire et j'ai eu tort.
Victime, et qui disparaît le 2 janvier 42, oui. Il a rendez-vous avec Petiot.
Et donc lui, c'est quasiment un voisin, hein, oui. De la rue Comartin. Et donc, c'est bel et bien lui qui prend contact, et c'est comme ça qu'il va créer son fameux réseau du docteur Eugène.
Voilà. Alors, donc, ça, tout le monde le sait, il dit, voilà, je vais vous faire passer en Argentine, je suis à la tête d'un réseau. Venez surtout avec vos affaires et vos économies. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de la question du magot, parce qu'on ne sait pas ce que c'est devenu. On n'a jamais retrouvé une partie de l'argent. Et Dieu sait, c'est une somme considérable. Mais, encore un mot, les gens disparaissent. 1, 2, 3, 4, enfin, il y en a beaucoup. Quelquefois, les familles reçoivent des nouvelles de leurs chers disparus qui sont censés leur avoir écrit des lettres. Et ces lettres vont être au centre aussi des questions qu'on se pose sur Petiot.
Alors là, vous posez une question difficile. J'ai essayé d'être extrêmement discret sur cet épisode parce que je n'ai pas vraiment bien trouvé l'explication. Ouais. Parce que certaines de ces lettres, alors est-ce que c'est probablement une écriture contrefaite qui dit ben voilà ça va bien tel disparu écrit à son épouse tout va bien.
Quelquefois les gens emploient des mots qu'ils n'emploient pas n'employaient pas avant de disparaître.
Voilà, mais c'est des fois posté de l'autre bout de la France et ça suppose un autre des mystères Petiot. Mais des mystères Petiot, il y en a 15, il y en a 20.
Des complices.
Le problème des complices.
Bien sûr.
Et ça, je n'ai jamais pu en savoir plus.
Ouais. Et alors comme l'écriture est très tremblée, on l'a fait après pendant le procès, on l'a fait analyser. Lisé par des graphologues, certains ont dit oui, mais c'est visiblement une lettre écrite sous la contrainte. On se demande si les gens n'étaient pas drogués, etc. En fait, ça fait partie là des points d'interrogation et des questions auxquelles on ne répondra jamais. On va faire une dernière pause dans l'émission, le temps passe vite, hein, vraiment. Et puis, après, je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de l'enquête de la police qui a été assez remarquable malgré la période troublée, notamment pour essayer d'identifier les vêtements qu'on avait retrouvés rue Le Sueur. Il y a un travail de Romain et les fameuses valises. Et puis, on passera en revue les dernières zones d'ombre dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Dernière partie de cette heure du crime consacrée à l'affaire Petiot, avec l'éclairage que donne dans son livre l'historien Claude Quettel. Donc le livre s'intitule « L'effrayant docteur Petiot ». Il vient de paraître aux éditions Perrin. Je parlais de travail important de la police que vous rappelez dans votre livre, c'est-à-dire avec cette masse de vêtements, de valises, de malles, etc. Ils ont retrouvé les policiers la plupart des magasins qui avaient vendu. On essaie de remonter aux identités des victimes.
Oui, il y a eu un énorme travail de police, bien fait. Ça peut arriver quand même. Ouais, hein. Ouais. Et donc, le problème des fameuses valises qui vont trôner derrière Petiot. Bonjour l'influence sur le jury.
Ah
c'est comme ça le poil de Landru devant tous les jurés. ça rend le serein et impartial. Mais ces valises, toute la famille Petiot, les amis de Petiot ont largement piqué dans les valises parce qu'il a essayé de faire croire qu'il les tenait un petit peu comme on dit en consigne ils étaient partis mais qu'ils ne pouvaient pas tout emporter.
Écoutez, ce qui est formidable, on vient de recevoir là un coup de fil au 3210 d'Armentières d'une éditrice qui se prénomme Madeleine et que je viens de la recevoir. J'ai vécu, dit Madeleine, avec la gouvernante du docteur Petiot.
Formidable.
Petiot était une bonne personne avec son personnel, et elle continue, il emmenait beaucoup de valises avec beaucoup d'objets de valeur comme des tissus, des vaisselles qu'il laissait parfois à son personnel.
Voilà,
alors, ça c'est un témoignage direct.
Voilà, hein. Et alors on est pendant l'occupation, parce que évidemment aujourd'hui quand même on manque pas de chemises, mais sous l'occupation on manque de chemises. Mais quand même faire croire que ces valises sont en consigne, précieusement conservées, mais qu'on pique dedans et que dedans il y a des objets de toilette, des pyjamas qui normalement auraient dû suivre le voyageur,
y compris des pyjamas d'enfants,
le pyjama d'enfant qui va d'ailleurs l'accuser gravement. Donc si les voyageurs avaient vraiment voyagé, si le voyage ne s'était pas arrêté rue Le Sueur, les valises auraient suivi.
Bien sûr. Alors il y a l'arrestation, bon, je renvoie tout le monde au livre, parce que c'est vrai qu'il... Mais un mot sur le réseau Flytox, quand même, parce que vous dites, il y a une espèce d'humour noir de Petiot extraordinaire. On lui dit, mais pourquoi vous avez appelé votre réseau Flytox? C'est un insecticide, hein, à l'époque.
C'est de l'humour noir, parce que moi, j'ai connu Flytox, je n'ai pas connu Petiot, mais j'ai connu Flytox, c'était une espèce de bombe.
Un réservoir, c'est comme une pompe à vélo.
Un truc gigantesque, qui je ne sais pas si ça asphyxiait bien les moustiques, mais celui qui s'en servait, il était vraiment bien atteint. Hein. C'était un truc à base de DDT, c'était un truc... Et alors, avoir intitulé son pseudo-réseau Flytox, enfin, aucun réseau de résistance n'a eu un nom aussi ridicule.
Mais il répond, on lui dit, mais pourquoi Flytox? Il dit, et la pub de Flytox, c'était Flytox tue les mouches.
Tue les parasites.
Voilà, non mais il dit, c'est Flytox... pour tuer les mouchards.
Voilà, oui, les mouchards. Oui, très juste, je me souvenais pas.
Ben c'est vous qui l'avez écrit,
je l'ai appris en lisant votre ligne. Mais je veux dire, de fait, les enquêtes vont montrer que ce réseau n'a jamais existé.
Bien sûr.
Certes, les réseaux étaient clandestins, mais là, la guerre est finie. Voilà. Et les réseaux n'ont plus lieu d'être clandestins.
C'est vrai, pour revenir à ce procès donc qui s'ouvre en 1946, hein, le 18 mars 46, il y a un bon nombre de responsables de la résistance qui vont être convoqués. Jamais personne n'a entendu parler de Petiot, ni du docteur Eugène, ni de tout cela. Qu'est-ce qui est frappant dans ce procès? D'abord, c'est le dernier salon où on cause.
C'est l'affluence.
Le gratin intellectuel de Paris qui est là.
Les invitations se revendent au marché noir.
Il y a des passages incroyables de dialogues de films, pour le coup, entre Petiot et
son président.
Arrêtez de faire arrêtez de lever les bras au ciel.
Oui, c'est pratiquement lui qui, à un moment, qui mène les débats. Jusqu'à ce que le président s'aperçoive qu'on le manipule. Ouais.
Alors, je vois le temps qui passe, il faut absolument rappeler. Alors, c'est vrai que la phrase est authentique, je suis un voyageur qui emporte ses bagages. Bon. On n'a pas retrouvé l'argent. Et est-ce qu'on a une idée de la somme du magot de Petiot?
La somme devait être gigantesque parce que chacun emportait ses économies. Et encore une fois, il n'y a pas eu que les malheureux juifs. Il y a eu aussi des truands qui sont partis avec des lingots d'or, des devises. Il y avait des bijoux. On dirait aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. Et alors, dès qu'il est exécuté... de nombreux acquéreurs essaient d'acheter l'hôtel de la rue Le Sueur.
Oui, l'habitation de l'assassin qui habitait au 21.
Ils vont le démonter pierre par pierre, en faisant attention, il n'y a pas de bulldozer.
En disant il a dû planquer son magot dans...
Mais alors, parce que Petiot ne pouvait pas avoir planqué ça bêtement, donc il fallait que ce soit bien caché. Et puis ils ne vont rien trouver, on ne va jamais trouver, aujourd'hui
alors,
encore...
Ceux-là vont revendre l'hôtel à quelqu'un d'autre,
qui vont
encore le détruire pour trouver...
Qui vont encore chercher mieux, plus profond, et on ne va jamais rien trouver. La police va surveiller de près la mère et le fils. Bon, le fils, ça va disparaître en Amérique du Sud.
Là, on a eu un coup de fil d'Auxerre, d'ailleurs. Odette, à Auxerre, qui nous dit « J'habitais à côté de la maison du frère de M. Petiot. Les enfants de M. Petiot sont en Argentine aujourd'hui. J'étais la couturière des deux femmes Petiot. »
Ça, c'est incroyable.
Si vous voulez, pour le deuxième tome, retrouver des
témoignages. Comme quoi, j'ai mal fait le travail. Je ne connais pas cette dame.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, vraiment, Claude Quettel. Merci, parce que c'est une actualisation formidable du dossier Petiot que votre livre, dont je rappelle le titre, donc l'effrayant docteur Petiot, fou coupable. Bon, on a compris que peut-être un fou qui, à force de vouloir se faire passer pour fou, est devenu fou. C'est peut-être...
Ce que Potcher avait appelé le fou tranquille.
Un fou tranquille, c'est pas mal.
Un fou tranquille.
Merci, l'émission est terminée maintenant. On va retrouver Flavie Flamand dans un instant. RTL.